RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Bonsoir à tous, je ne vous cache pas qu'on va parler un petit peu du Tour de France. Grand départ demain à Utrecht, aux Pays-Bas. Tous les favoris sont en forme, prêts à en découdre comme notre Dream Team. Cyril Guimard sera là dans un bon quart d'heure. Luc Leblanc et Thierry Bourguignon à 20h avec vous au 32-16 et sur Twitter aussi. Un hashtag RMC Live. Lewis Hamilton, lui, est en territoire conquis. C'est le Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne ce week-end. Nico Rosberg est aussi prêt pour cette bataille d'Angleterre. On va voir ça avec nos experts à 18h30. On parlera aussi du projet de Renault de revenir en Formule 1. Puis ça va swinguer dans l'intégral tour en direct de l'Open de France de golf avec Grégory Bourdi, mais aussi avec Christine Aron et Laura Flessel. Les JO de Rio, c'est dans un an. Et puis un tout nouveau Lyonnais avec nous à 20h30, Claudio Beauvue, vient de signer à l'OL. L'attaquant a participé à son premier entraînement ce matin. On va voir comment ça s'est passé. Tout de suite, c'est le journal des sports avec Guillaume Blagnel. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Virginie.
Alors l'événement de cette fin de semaine, c'est le départ de la 102e édition du Tour de France.
Exactement, Tour de France particulièrement excitant avec la présence, on en parle, de Contador, Quintana, Froome ou Nibali, le tenant du titre. À noter également qu'aujourd'hui le Français Nasser Bouhanni a confirmé sa participation une semaine après sa chute au championnat de France. Le départ de la course donc c'est demain, samedi, avec un contre-la-montre de 14 km disputé dans les rues d'Utrecht aux Pays-Bas, à Utrecht justement, où il règne Georges Quirino, une grande ferveur.
Oui, bonsoir à tous. Oui, tout est prêt ou presque pour le grand départ demain. L'arche d'arrivée, le podium juste à côté de nous. Eh bien, tout est déjà installé pour le chrono dans les rues d'Utrecht dès 14h. Utrecht qui vibre autour de France, des affiches, des événements, des bicyclettes surtout partout. Plus de 300 000 vélos répertoriés ici dans une ville qui compte 300 000 habitants. Rendez-vous compte, ça fait plus d'une bicyclette par habitant. On est bien dans le pays du vélo. Christian Prudhomme, le directeur du Tour, évidemment. Le sourire.
Une ambiance exceptionnelle pour le grand départ du Tour de France aux Pays-Bas, à Utrecht, sans surprise, même si nous sommes évidemment ravis, mais il y a plein de monde. Les Pays-Bas, c'est le pays de la petite reine. Utrecht, c'est la ville des Pays-Bas où il y a le plus de gens à vélo. À titre d'exemple ou d'anecdote, lorsque je suis venu ici à moult reprises pour préparer le grand départ, les gens qui venaient me chercher venaient avec un vélo, m'attendaient, et on allait à bicyclette aux différents rendez-vous pour aller voir le maire, par exemple. C'est quelque chose qui n'arrive évidemment pas en France. Et en France, d'ailleurs, on trouverait peut-être ça incongru, alors que c'est tout à fait naturel ici. Ça préfigure peut-être, d'ailleurs, je l'espère, ce que sera l'avenir en France aussi.
Sixième grand départ pour les Pays-Bas du Tour de France. Les coureurs se reposent un petit peu après une longue journée de conférences de presse. Ils vont essayer aller de dormir un petit peu ce soir avant de partir pour 3 semaines d'aventure.
Merci Georges, on te retrouve évidemment pendant ces 3 semaines sur les routes du Tour de France.
Et on va apprendre à dire Utrecht. C'est vrai que je parle assez mal le néerlandais, donc Utrecht, ça marche aussi.
On se comprend, ouais.
Ça marche mieux quand même avec London, Wimbledon.
RMC Wimbledon 2015.
Et place aujourd'hui au début du 3e tour.
Exactement, et on prend sans plus tarder la direction de Londres pour y retrouver Eric Salio. Salut Eric.
Bonjour.
Une Française se trouve actuellement sur les courses, c'est Kristina Mladenovic, dernière tricolore en lice d'ailleurs dans le tableau féminin, et c'est difficile pour elle, hein, opposée à l'ancienne numéro 1 mondiale Victoria Azarenka.
Elle est en retard effectivement au tableau d'affichage puisque Victoria Azarenka a remporté le premier set 6-4, 3 partout dans le deuxième set, et c'est dommage parce que ce jeu de service que la Biélorusse vient de remporter, eh bien Kiki s'est procuré 5 balles de break, donc elle est beaucoup mieux, elle résiste vraiment à Vika comme on dit, qui a eu une année 2014 très difficile avec une blessure au pied, donc c'est une fille qui est abordable, mais il faut juste concrétiser les occasions et ça peut tourner.
En quelques mots Eric, la qualification il y a quelques instants du numéro 1 mondial chez les hommes, Novak Djokovic sans le moindre souci contre Tomic, l'Australien.
3-6-3 contre Bernard Tomic, Djokovic qui affrontera lundi le Sud-Africain Kevin Anderson. On connaît aussi deux autres affiches des huitièmes de finale, Wawrinka Goffin et puis Gasquet Kyrgios.
La perf de la journée, évidemment, elle est à mettre au crédit de Richard Gasquet, vainqueur expéditif du Bulgare Grigor Dimitrov. Le score 6-3, 6-4, 6-4. C'est ce que l'on appelle une correction.
Ouais, en moins de 2 heures, vraiment, Richard Gasquet s'est montré impressionnant. On savait que c'était à sa portée puisqu'il menait 4-0 dans le face-à-face, mais on se méfiait parce que quand même Dimitrov avait atteint les demi-finales l'an passé. Mais c'est surtout une grande première pour Richard Gasquet. Écoutez-le, il n'avait jamais remporté un match sur le central de Wimbledon.
C'est clair que tu te fais plaisir quand tu gagnes un 3-7 sur le central. Voilà, quand Dimitrov qui avait fait demi-finale, qui est attendu comme un des meilleurs joueurs dans le futur. C'était assez ouvert avant le match, il pouvait se passer beaucoup de choses. En tout cas, gagner ici, ouais, sur le central, c'est la première fois que ça m'arrive, donc c'est une belle performance. Je suis content d'avoir pu gagner un 3-7. Ça a été quasiment parfait jusqu'à un peu la frayeur, un peu à 5-4, où j'ai 4 balles de match. Je fais quelques erreurs, mais à part ça, ça a été un beau match. Bah, gagner un match sur le central de Wimbledon, ça manque un peu. Ouais. Ça fait du bien. Ouais. Après, bon, c'est pour aller en 8e. Voilà, donc ça fait quelques fois que je le fais ici. Je fais une demi, je fais quand même pas mal de 8e aussi, donc j'espère réussir à aller un peu plus loin, quoi.
Gasquet donc contre Kyrgios, on l'a dit, l'Australien au prochain tour, l'Australien qui a dominé donc Milos Raonic en 4-7. Ça passe également pour Wawrinka, Goffin et Kevin Anderson. Et puis chez les femmes, qualification de l'une des favorites, Maria Sharapova. Rapidement Eric, j'imagine que l'on a reparlé de la sensation de la journée d'hier avec l'élimination prématurée de Rafael Nadal. Hein.
Non, pas du tout, on a oublié.
Ah, je me disais bien, c'est Virginie qui est très inquiète, qui voulait qu'on évoque. Je suis très inquiet pour Rafa. Sincèrement.
Ouais, je pense que tout le monde est inquiet. Lui, il fait semblant de pas l'être, mais je pense qu'il est un petit peu aussi.
Ah non, mais il était très marqué hier en conférence de presse, Virginie. Et on se pose beaucoup de questions parce que ça fait 4 années de suite à Wimbledon où il perd sur des garçons qui étaient très très mal classés. Bon, c'est vrai que Kyrgios, l'an passé, bon, on a vu le bond en avant qu'il a effectué, mais ça commence à faire beaucoup. Il a perdu son coup droit, il a perdu tout son timing et John McEnroe lui suggère de changer de coach, donc de mettre Tony à la retraite pour redémarrer. Alors on ne sait pas ce qu'il va faire, est-ce qu'il va essayer de se refaire sur la terre battue européenne ou alors il va falloir attendre Montréal pour voir si vraiment il peut sauver sa saison.
Alors il y en a un qui est très content d'avoir perdu, c'est Benoît Paire, parce qu'il déteste Wimbledon, il n'a pas hésité à égratigner le tournoi en conférence de presse.
Quitter Wimbledon, je m'en fous, ici tout est pourri, je ne suis pas le seul à penser ça, mais peut-être le seul à le dire, a notamment déclaré le Français. Vous l'aurez compris, donc Paire déteste Wimbledon, mais Eric, il a eu droit hier à un petit cadeau des organisateurs.
Ouais. Alors hier, lors de son match face à Bautista Agut, Benoît Paire y est allé d'un geste de karatéka, vraiment, envers une chaise qui traînait dans un coin du court. On sentait que le Français voulait expulser toute la haine que lui inspire ce tournoi qui est bientôt rigide pour lui.
Tout qui est pourri, donc j'ai déjà expliqué, je vais pas revenir à chaque fois dessus, c'est pas un tournoi que j'aime bien. Quand je discute avec d'autres joueurs, je suis pas le seul à penser ça, après je suis peut-être le seul à le dire. Finalement j'ai pris 45 points, j'ai pris beaucoup d'argent.
Ouais, mais si les ordinateurs restent silencieux sur les déclarations provocantes de l'Avignonnais, ils tapent au porte-monnaie. Ce matin, Benoît Paire a reçu un petit mail amende. Son prize money sera amputé de 2500 livres. Ouais, c'est pas mal, hein. Bon, c'est une petite coupe d'eau, certes, mais Benoît Paire doit être content de ne plus devoir traverser la Manche avant un an. Alors, d'autres Français pestent contre les traditions, mais bon, ils le disent avec plus de rondeur, comme Gilles Simon.
Des années, j'étais obligé de peindre mes chaussures parce que mes trois bandes étaient un peu trop visibles, un peu trop noires. Mes chaussures n'étaient pas assez blanches. Pourtant, quand je me regardais dans la glace, j'avais l'impression d'être vachement blanc.
Oui, bon, bah, c'est toujours pas la même chose avec Wimbledon. Il faut s'habiller en blanc. Ils doivent finir par le savoir quand même, les joueurs de tennis maintenant. Merci beaucoup.
Merci Eric.
À demain.
À demain. Et on va passer de la petite balle jaune à la balle de golf, hein, puisque c'est l'Open de France en ce moment.
Qui se déroule effectivement sur le golf national de Huillancourt dans les Yvelines. On rappelle que ce golf accueillera la Ryder Cup en 2018. Alors hier, on a assisté à une bonne entrée du Français Victor Dubuisson. On va rejoindre sur place Damien Gossioso pour RMC. Damien, salut.
Salut tout le monde.
Le Français Victor Dubuisson qui a confirmé aujourd'hui pour la deuxième journée.
Oui, un Victor Dubuisson très solide aujourd'hui avec pour l'instant 2 birdies et 1 eagle. Même au trou numéro 6, il en est à moins 2. Il est actuellement au trou numéro 17 où il va putter dans quelques instants pour le par, le numéro 1 français. Après son moins 3 d'hier, cela lui permet d'occuper seul la tête de cette Open de France avec un score total de moins 5 devant un Espagnol, Rafa Cabrera Bello, à moins 4 lui.
Merci Damien. Donc, bien en direct de Guyancourt à l'Open de France avec pour l'instant la belle prestation. Bien, on l'a dit de Victor Dubuisson.
De Victor Dubuisson, numéro 1 français. L'Angleterre, on y était il y a quelques instants. On y retourne. Hein, la Formule 1, c'est à Silverstone ce week-end.
Avec le mythique Grand Prix, évidemment. 9e manche du championnat du monde. On retrouve sur place Louis Amar, l'envoyé spécial de RMC. Salut Louis.
Salut Guillaume, bonsoir.
Alors, cette journée de vendredi était consacrée aux essais libres. Des essais dominés sans grande surprise par les deux Mercedes de Lewis Hamilton et de Nico Rosberg.
C'est ça, à la fin, ce sont les Mercedes qui gagnent. C'était attendu, tu l'as dit. Nico Rosberg et Lewis Hamilton ont signé ce matin les premiers et deuxième temps de la première séance d'essais libres. Rosberg a encore dominé la deuxième cet après-midi. Petit coup de mou pour Lewis Hamilton qui n'a fini que 4e. C'était attendu parce que c'est un circuit qui convient convient parfaitement à la Mercedes, un circuit de moteur comme on dit, avec de longues lignes droites, des virages à très haute vitesse. Nico Rosberg le rappelait d'ailleurs cette semaine, je le cite, c'est pour ce genre de circuit que la monoplace 2015 a été conçue. Enfin, si on attend une domination de Mercedes, c'est parce que ces deux pilotes jouent très gros. Lewis Hamilton est à domicile pour essayer d'enrayer sa mauvaise passe, une victoire sur les quatre dernières courses seulement, et à l'inverse, Nico Rosberg tentera d'entretenir sa bonne dynamique. Il est revenu à portée de fusil, 10 points derrière Lewis Hamilton, autant dire une misère. Un mot quand même des Ferrari qui pourraient tirer leur épingle du jeu avec leur belle vitesse de pointe. Cet après-midi, Raikkonen et Vettel ont signé respectivement les deuxième et troisième temps de la deuxième séance d'essai.
Et Louis, brièvement, journée difficile à oublier pour Romain Grosjean, le français.
Terrible, terrible pour Romain Grosjean. Il a pas roulé ce matin, cédé son baquet à Julian Palmer. Et puis cet après-midi, après 8 tours, il a fait une erreur, blocage de la roue arrière, voiture immobilisée. Il est reparti très brièvement en fin de la deuxième séance. Quand on lui a demandé il y a quelques minutes ce qu'il espérait pour la qualif de demain, il a tout simplement répondu « j'en ai aucune idée ».
Merci Louis Amar, on te retrouve à 18h30 avec Jean-Luc Roy pour les experts F1 et puis les qualifs, c'est demain à 14h, même chose pour le Grand Prix dimanche. En natation, dernière répétition de l'équipe de France avant les championnats du monde le 2 août.
Oui, c'est l'Open de Vichy qui débute demain. On va retrouver du beau monde d'ailleurs, malgré l'absence côté français de Yannick Agnel. On va retrouver Camille Lacour, Jérémy Stravus, de même que Florent Manodou, que tu aimes beaucoup, je le sais, Virginie, la star de la natation française.
Pourquoi ?
Sa ligne sur 100 mètres, mais également sur 50 mètres et sur 50 mètres papillon, il retrouvera le Brésilien César Silo, champion olympique à Pékin, triple champion du monde du 50. Alors avant donc de se retrouver pour les mondiaux, il y aura une première répétition. Pétition toujours motivant pour le Brésilien qui est au micro de Julien Richard.
Oui, des courses très rapides, mais Florent a déjà nagé très vite cette saison. Ce sera un très gros challenge de nager face à lui, mais un challenge intéressant. On verra bien qui sortira vainqueur. En tout cas, je vais essayer de faire de mon mieux. On verra ce qui se passe pendant la course. Mais je pense que vu ce qu'il a fait cette saison, Florent sera le favori à Vichy.
César Cielo, merci beaucoup Guillaume, à tout à l'heure.
Merci Virginie, à tout à l'heure.
Pour de nouvelles infos sport, on se dépêche parce que Cyril Guimard est prêt pour le contre-la-montre d'Utrecht demain, début du Tour de France. À tout de suite.
RMC, Intégral Tour.
Est-ce que tu vois l'Arc de Triomphe?
Ben non.
Virginie Fulpin.
Eh bien tu t'arrêteras quand tu le verras.
RMC, il est 18h19 et je vous emmène dans un pays où on n'utilise pas beaucoup de voyelles. Glückeflucht, Cyril Guimard. Je sais pas si on dit bonjour comme ça, mais ça doit ressembler à quelque chose comme ça, je suis sûr.
Bon, sûrement, mais je vais pas me risquer.
Ouais, non, mais moi non plus, en fait. Donc, le Tour de France part des Pays-Bas. C'est comme ici, c'est la canicule, là.
Oui, c'est la canicule depuis que nous sommes arrivés, mais je crois que c'est vrai un petit peu partout, puisque en France également. Tout le monde commence à craindre un peu cette chaleur, mais
ça peut avoir une influence sur le Tour de France. Si c'est comme ça toute la première semaine, par exemple.
Oui, non, les conditions atmosphériques ont toujours une incidence énorme sur le déroulement des épreuves. Où il neige et vous avez un type de course, où il pleut et c'est un autre type de course. Si vous avez en plus un vent terrible qui arrive de la mer, ce qui est possible d'ailleurs après-demain, ça change aussi les stratégies et la façon dont le peloton va progresser. Et puis la chaleur, eh bien, c'est un autre élément contre lequel il faut lutter, ne pas bien sûr oublier de s'hydrater, mais tous ne supportent pas la chaleur de la même façon. Il y a des coureurs qui aiment la chaleur, même si c'est difficile, mais qui gardent un maximum de potentiel, et d'autres qui préfèrent le froid, d'autres qui préfèrent la pluie. Chacun n'est pas égal, je dirais, par rapport aux conditions atmosphériques.
Alors ce Tour de France, on a hâte d'y être, hein, parce que tous les favoris sont en forme, Contador, Froome, Quintana, Nibali. Lequel se dégage pour vous, Cyril, aujourd'hui?
C'est la question que tout le monde se pose, mais pratiquement tout le monde est unanime pour regarder d'un peu plus près ce Colombien Quintana qui, rappelez-vous, il y a 2 ans, avait donc terminé deuxième du Tour de France alors qu'il ne partait pas favori. Il avait d'ailleurs un leader qui l'avait épaulé une grande partie du Tour. Et puis, il n'avait que 23 ans. L'an dernier, il avait fait l'impasse, mais il avait quand même gagné le Tour d'Italie. Et cette année, il revient, mais là, comme leader unique de son équipe. Et c'est vrai qu'à 25 ans, il fait, il représente un épouvantail pour ses adversaires. Et tous sont unanimes pour dire que c'est l'homme à battre, y compris Froome, y compris Contador, y compris Nibali.
Alors, il y a ces quatre fantastiques, bien sûr. Puis il y a aussi les Français. Thibaut Pinot, notamment, qui est en forme en montagne. Ça, on l'a vu il n'y a pas longtemps.
Oui.
Il a des vraies chances Thibaut Pinot?
Il a des chances.
Il peut se glisser parmi ces quatre fantastiques.
Je dirais des vraies chances. Je dirais plutôt des chances réelles, mais il faut quand même un certain nombre de circonstances. Il a réalisé de belles performances en haute montagne, sur le Tour de Romandie en remportant l'étape de montagne, sur le Tour de Suisse également en remportant la grande étape de montagne et en étant leader pendant trois jours. Il a perdu son maillot lors de l'étape contre la montre, mais il a démontré qu'il avait des vraies qualités de grimpeur. Il peut lutter avec les grands. Est-ce qu'il pourra lutter à chaque arrivée au sommet? Ça, c'est peut-être un peu plus compliqué. Sur le papier, c'est vrai, les quatre se dégagent par rapport à lui. Mais les circonstances de course, quelquefois, peuvent donner le petit coup de pouce nécessaire.
En tout cas, rassurez-nous, parce que demain, on commence par un contre-la-montre. On sait qu'il aime pas ça. Oui. Il ne peut pas perdre le tour demain.
Non, parce que sur 14 kilomètres, les écarts ne seront pas très importants, ou du moins n'élimineront personne. C'est mieux d'en perdre moins, c'est même mieux d'en gagner. Mais si on prend les Français, qui d'ailleurs de façon générale ne sont pas des spécialistes du contre-la-montre, ils perdront sur ces 14 kilomètres, on va dire entre 30 secondes et une minute, peut-être une minute 10. Et là, je parle bien sûr de Pinot, mais également de Bardet ou de Warren Barguil, également, qui est un excellent grimpeur et qui lui participera à son premier Tour de France.
Bon, et puis cette année, il n'y en a qu'un contre la montre individuelle, donc on ne peut pas faire moins, plus, hein, quasiment.
Faut pas se rater, là.
Alors, c'est une première semaine où on ne va pas voir que du sprint, parce qu'il y a aussi des arrivées un peu plus difficiles, Mur de Bretagne par exemple, mais on va quand même voir les sprinteurs. Nasser Bouhanni va participer, on le sait, ça a été confirmé, mais dans quel état est-ce que c'est prudent?
Oui, non, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de fêlure, il y a des hématomes, il y a un peu de peau qui est restée sur le bitume, bien brûlée.
Merci.
Mais, bon, en une...
oui, mais, pour l'image, mais, c'est sympa.
Quand on est coureur cycliste, on a l'habitude, hein, on s'en prend toujours au minimum deux ou trois par an, donc on est habitué à gérer ce genre de choses. Ça n'est surtout pas un avantage, hein, faut pas se méprendre sur la façon dont je le dis, mais c'est un solide, c'est un dur au mal, donc il n'y a pas de conséquences à ce qu'ils prennent le départ. Il sera peut-être un petit peu juste sur les premières étapes, surtout sur l'étape de dimanche, l'étape de lundi. Alors, parliez des difficultés, là ça ne sera pas les sprinters, parce qu'on arrive au sommet du mur de Huy. Vous savez, cette rampe avec des pourcentages à 18% sur un kilomètre, qui est d'ailleurs le final de la flèche wallonne, où jamais un sprinter n'a réussi à s'imposer, mais au contraire les grimpeurs puncheurs. Donc là, il n'y aura pas d'arrivée au sprint, bien sûr.
Juste très rapidement, Cyril, qui sera maillot jaune demain soir?
Alors, maillot jaune demain soir, voilà la très bonne question. Il y a un grand favori, c'est Tony Martin, bien sûr, qui est le champion du monde en titre et depuis plusieurs années. Et puis Cancellara, dont ce sera sans doute le dernier tour, qui lui aussi est un grand spécialiste, un petit peu en retrait ces derniers temps, et qui, je pense, pourrait peut-être l'emporter. Et puis, il y a un jeune rouleur néerlandais qui arrive, Tom Dumoulin, mais qui sera peut-être un petit peu en retrait par rapport à ces deux-là. Mais ça sera de toute façon un beau match à trois.
Mais il sera chez lui, donc ça peut jouer aussi.
Et il sera chez lui, surmotivé. Il va avoir là tous les t-shirts orange là, qui vont le pousser.
On a l'habitude.
Il sera à la maison.
Merci beaucoup Cyril, on te retrouve à partir de 19h avec Christophe Cessieux, avec toute l'équipe du Tour. Et puis entre 20h et 20h30, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon vont répondre à toutes vos questions, toutes les questions que vous vous posez avant le début de ce Tour de France. Vous connaissez le numéro, c'est le 3216. Et puis vous pouvez aussi utiliser Twitter avec le hashtag RMC Live. Alors pour ceux qui n'ont pas la force de pédaler par cette chaleur, je vous propose de vous mettre au volant dans une minute sur RMC. Ce sera avec les experts F1.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 18h30, c'est sûr que si vous êtes coincé dans les bouchons, ça va vous faire rêver d'avancer aussi vite qu'une Formule 1, puisqu'on parle à Silverstone.
RMC, les experts F1.
Louis Amar et Jean-Luc Roy sont avec nous. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir à tous.
Alors, eh bien, bonsoir Virginie, bonsoir à tous.
Jean-Luc est à Paris, Louis est à Silverstone. Bon, alors je sais, on en parle beaucoup de la chaleur, mais bon, je vais quand même être obligé de poser la question. Louis, en Angleterre, ça n'existe pas la canicule, c'est bon?
Si, ça existe, ça s'appelle la canicule anglaise, 22 degrés.
et pas un rayon de soleil. Mais ici, tous les locaux trouvent qu'il fait un temps de plomb et qu'il y a une chaleur de fou.
Oui, mais enfin bon, donc 22 degrés, ça n'a aucune incidence sur la course. Hein, on est bien d'accord.
Aucune.
Donc, pas de chaleur. Donc, a priori, j'ai assez peu de chances de me tromper en disant que c'est une Mercedes qui va gagner dimanche.
Oui, je pense que tu as très peu de chances de te tromper, même si tu dis ça, parce que c'est un circuit fait pour les Mercedes, un circuit avec de longues lignes droites, avec des virages qu'il faut prendre à une très grande vitesse. Et Nico Rosberg le rappelait d'ailleurs lui-même dans la semaine, il disait c'est une monoplace qui a été conçue pour des circuits tels que celui de Silverstone. Et puis c'est un Grand Prix à domicile, évidemment pour Lewis Hamilton qui est anglais, donc c'est son Grand Prix, mais aussi pour l'équipe Mercedes, parce qu'il faut savoir que les 1300 personnes qui travaillent tous les jours d'arrache-pied pour concevoir, élaborer, améliorer les deux voitures de Lewis Hamilton et du Nico Rosberg, travaillent à 20 minutes à peine en voiture du circuit de Silverstone.
Jean-Luc, en ce moment, Lewis Hamilton, il est moins bon que Nico Rosberg quand même. Alors là, il va être chez lui, il va avoir à cœur, on imagine, de prouver qu'il peut être aussi bon qu'en début de saison.
Alors, il est un tout petit peu moins bon. Je sais que tu l'aimes bien, c'est Lewis, et tu as raison, parce que c'est un très grand pilote. Il est quand même leader du championnat du monde avec 169 points contre 159 à Nico Rosberg. Alors, il faut toujours rappeler que le Grand Prix de Monaco lui a échappé à cause d'une mauvaise décision de son équipe. Il était promis, il était pour lui, ce Grand Prix. Donc, effectivement, ça aurait...
Il y avait même eu des excuses de Mercedes à Lewis Hamilton.
Absolument. Donc là, il n'y est pour rien. Enfin, il concède qu'il a une petite part de responsabilité, d'abord, parce qu'il aurait très bien pu ne pas s'arrêter, désobéir aux ordres, en disant, attendez, vous êtes gentil, mais c'est moi qui suis au volant de la monoplace, et moi, j'estime que les 15 derniers tours, je vais les contrôler sans aucun problème. Alors, lui-même avait posé la question, qu'est-ce que je fais? Hop, donc on lui a répondu, tu fais ça, et bien sûr, il a suivi. Juste pour moduler un tout petit peu ton constat, Lewis aurait dû être en avance parce qu'il y a eu un échange de points entre les deux. Donc tu sais bien, il y a 7 points d'écart entre le vainqueur et le deuxième. Donc ça pourrait faire une balance de 14 points supplémentaires pour Lewis et donc au détriment de Nico. Donc tu vois que c'est pas si au désavantage de Lewis que ça.
Alors Lewis Hamilton qui a en plus bossé avec ses ingénieurs et il l'a dit parce qu'il voudrait bien commencer à être aussi performant qu'en début de saison, notamment sur ses départs. Est-ce que ça, le fait qu'il ait travaillé tout particulièrement avec ses ingénieurs, est-ce que ça fait peur à Nico Rosberg? On va l'écouter tout de suite.
Inquiète? Non, ça serait pas bien de m'inquiéter toute la journée pour ça. Non, pas du tout. Même de l'autre sens. C'est lui qui doit rattraper, c'est pas moi. Donc c'est bon.
On sait qu'ils s'aiment pas spécialement, mais ça s'entend quand même là. Même en 10 secondes, on a compris qu'il y avait quand même pas un amour fou entre les deux pilotes Mercedes, non?
Ah oui, et puis il y a une autre phrase de Nico Rosberg qui était terrible. On lui parle de sa bonne dynamique, 3 victoires, même s'il y en a une un peu à la Pyrrhus, effectivement, à Monaco, sur les 4 derniers Grands Prix. Et il nous dit, ah ben oui, j'espère que ça va lui mettre la pression. Allez, oui, ça lui ferait du bien. Donc, effectivement, les couteaux sont de nouveau tirés, alors que ça se battait davantage à fleur et moucheté en début de saison. Là, les deux ont ressorti leur animosité. Mais c'est vrai que Lewis Hamilton a beaucoup travaillé ces 15 derniers jours. Il nous l'avait dit d'ailleurs à la fin du Grand Prix d'Autriche. Il avait dit, il faut que je me réunisse avec mes ingénieurs pour comprendre pourquoi mes départs depuis 3 ou 4 Grands Prix ne sont plus assez bons. Et résultat, il a renoué avec son embrayage de l'année dernière, son embrayage 2014 qui faisait des merveilles. Et peut-être que ce petit handicap qu'il accusait par rapport à Rosberg depuis quelques semaines va s'estomper.
J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de Renault. Oui, de Renault, parce que Renault a le projet de revenir en Formule 1. Pour l'instant, Renault est motoriste de Red Bull et Toro Rosso. Ça ne suffit pas à la marque française parce qu'en fait, Jean-Luc, il n'y a pas beaucoup de retombées pour Renault en étant motoriste. Il y a même surtout des critiques de la part de Red Bull, en fait.
Et oui, et malheureusement des critiques acerbes, et on l'a dit nous-mêmes sur l'antenne de RMC, un peu injuste, il faut être honnête, parce que ça va moins bien pour Renault. On le sait, Renault a moins bien vécu et moins bien appréhendé cette nouvelle réglementation qui est entrée en application dès l'an dernier. Mais l'an dernier, il y avait quand même eu les 3 victoires de Daniel Ricciardo avec donc cette Red Bull motorisée par Renault. Cette année, il n'y en a pas jusqu'à présent et on voit pas trop comment il pourrait y en avoir d'ici la fin de la saison, à moins d'éliminer les 2 Mercedes et les 2 Ferrari, mais ça fait quand même beaucoup de monde. Oui, c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que ce qu'on entend de Renault, c'est mauvais, de la part de Christian Horner, de la part de Dietrich Mateschitz, le grand patron de Red Bull, effectivement, qui menace même de se retirer de la Formule 1 à cause de Renault, en disant ils nous ont enlevé le goût d'être en Formule 1. Alors évidemment, la réflexion dans ces cas-là, c'est de se dire pourquoi finalement on ne rachèterait pas une écurie. Alors ce qui paraît un peu bizarre, c'est que cette équipe, elle était à eux, elle était à Renault, et Renault, tu t'en souviens certainement, s'en était séparé à la suite du 5 Singapour Gate, quand on avait demandé au pauvre Nelson Piquet Jr. de précipiter sa monoplace dans le mur pour favoriser la victoire de Fernando Alonso. Enfin, tout ça est un peu sordide et un peu bizarre. On aurait aimé quand même que le constructeur français ait une stratégie un peu plus à long terme.
Oui, c'est vrai que ça paraît pas très clair tout ça, mais bon... Le but, on imagine bien, c'est aussi de conquérir de nouveaux marchés. Bon, il y a un Grand Prix en Chine notamment. Bon, c'est un marché qui compte pour Renault. Donc, au-delà de l'aspect sportif, il y a aussi l'aspect économique qui entre en ligne de compte.
Bah, c'est clair que la Formule 1 n'a pas son pareil en matière d'exposition planétaire quand on fait du sport automobile. D'abord, ça reste, et on espère que ça le restera toujours, le pinacle du sport automobile. C'est vraiment le sommet, c'est ce qu'il y a de meilleur à tout niveau, technologie, pilote, etc. Donc, budget investi. Et surtout, tu l'as dit, on va dans 19 pays différents, notamment la Chine, qui est en train de devenir le premier marché mondial, puisque tu sais que c'est très serré en termes de vente de voitures de série entre les États-Unis et la Chine, mais on sait très bien que la Chine va devenir le premier marché. Donc effectivement, pour tout constructeur mondial qui se respecte, il faut être présent en Chine, il faut gagner en Chine. Et effectivement, bah, c'est pas un mauvais coup. Alors tout dépend du prix, tu sais, comme on dit toujours, ça dépend combien les actionnaires actuels de Lotus, puisque c'est bien de Lotus,
oui, c'est Lotus
qu'il s'agit,
oui,
vont revendre à Renault l'écurie qui était la leur. Tu vois, c'est un peu étonnant, mais c'est comme ça.
Alors donc ça pourrait éventuellement être entériné cet été. Il faut aussi que Renault trouve des sponsors. Il faut voir avec qui Renault va travailler. Je crois que Alain Prost pourrait faire partie du projet.
Oui, Alain Prost l'a dit lui-même d'ailleurs d'une manière assez énigmatique il y a 15 jours après le Grand Prix d'Autriche. On lui fait la remarque qu'il y a d'anciens pilotes qui travaillent de près dans des écuries de Formule 1 en prenant l'exemple de Niki Lauda avec Mercedes et on lui demande si occuper un tel rôle serait envisageable pour lui et il a répondu dans un sourire très entendu, rien n'est impossible et ça peut évoluer très rapidement. En fait, Alain Prost est pressenti pour intégrer la direction de la nouvelle écurie Renault-Lotus-Lotus-Renault, on ne sait pas encore comment elle s'appellerait. Le dernier obstacle en fait qui reste à passer avant d'entériner ce rachat, c'est la validation de cette décision par le conseil d'administration de Renault. Et une fois que le conseil d'administration de l'entreprise aura validé le rachat de Lotus, ça sera annoncé et cette écurie pourra sans doute voir le jour dès la saison prochaine. On peut également vous révéler ce soir sur RMC que les profils des pilotes ont été définis, identifiés. Il s'agirait d'un Français accompagné d'un étranger, de préférence jeune et issu, on retombe sur la contrainte économique, d'un pays où Renault a une marge de développement et de progression.
Et pourquoi pas Romain Grosjean? Qu'est-ce qu'il en pense, lui? Louis, tu lui as posé la question, est-ce que ça l'intéresserait d'être pilote pour une écurie française?
Je crois que de toute façon, à partir du moment où il y a un constructeur qui vient ou revient en Formule 1, c'est excitant pour le sport. On aime, moi le premier étant fan de Formule 1, j'ai très envie de voir une écurie française, un pilote français, un Grand Prix de France, essayer de faire résonner la Marseillaise sur un podium. Voilà, donc effectivement, les rumeurs sur le retour de Renault, ça serait quand même quelque chose d'assez chouette et certainement une expérience qui me tenterait.
Jean-Luc, là, il parle aussi de Grand Prix de France. On va pas jusque là. Là, on s'arrête au retour de Renault.
Oui, on s'arrête malheureusement au retour de Renault, mais tu sais que là, c'est pareil, on plaide et on prêche pour le retour du Grand Prix de France qui a disparu depuis 2008 au calendrier. Ça va être très très dur d'y revenir puisque c'est Bernie Ecclestone, évidemment, qui est aux manettes et tu sais qu'il faut aligner au bas mot 20 millions de dollars avant même de commencer à discuter, juste pour payer le montant du plateau. Quel dommage qu'on ait raté le coche. Il y avait pas mal de choses à faire. Il y avait des gros annonceurs. Il y a de grandes sociétés, grandes multinationales qui dégagent des profits de plusieurs milliards, si tu vois ce que je veux dire, qui sont notamment des sociétés pétrolières qui auraient parfaitement pu soutenir ce Grand Prix de France. Bon, c'est un autre débat. D'ailleurs, on peut penser que ces sociétés-là, elles seraient probablement associées à Renault. Hein. S'il y a une nouvelle écurie Renault, on peut penser, on espère, qu'il y aura un effort commun, pourquoi pas un effort français, soyons un peu cocardiers, pour soutenir cette écurie. Alors, j'en reviens aux pilotes. Ben, pour Romain, évidemment, ce serait une porte de sortie, dans le bon sens, formidable. Après avoir mangé son pain noir sans vilain jeu de mots, tu connais la couleur des monoplaces, pendant quelques saisons chez Lotus, ce serait génial de le voir renaître, aller dans un jaune flamboyant aux couleurs de Renault, dans une équipe Renault, ben oui.
Bon, on va en reparler cet été, ça c'est à peu près sûr. Merci beaucoup à tous les deux. On va redonner les rendez-vous Formule 1 du week-end sur RMC. Demain, les qualifs, 7 à 14h. Dimanche, le Grand Prix de Grande-Bretagne, c'est aussi sur RMC. Et c'est aussi à 14h. Et donc, je vous dis à demain.
À demain.
On va rester en Angleterre d'ailleurs, hein, puisque...
À demain.
Et puisqu'on est à Wimbledon, et là c'est une mauvaise nouvelle, Eric Salio, pour Kristina Mladenovic. C'est terminé pour elle.
Oui, élimination de Kristina Mladenovic, 6-4, 6-4 face à une Victoria Azarenka qui
qui a été un très très haut niveau. Donc pas trop de regrets pour Christina, même si elle a eu des balles de break au milieu du deuxième, mais est tombée sur plus forte qu'elle. Donc il n'y a plus de française dans le tableau féminin, alors que chez les garçons, quand même, il y a profusion.
Oui, il y a notamment Richard Gasquet qui s'est qualifié aujourd'hui et qui affrontera Nick Kyrgios lundi. J'avais oublié qu'on ne jouait pas le premier dimanche à Wimbledon. Non, mais ça va pas bien. Merci Eric. À tout à l'heure. On va rester sur du vert, sur de l'herbe, mais ce sera du golf dans quelques minutes sur RMC. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. Virginie Fulpin.
Il est 18h45, on est ensemble jusqu'à 21h. Je ne sais pas si vous êtes au bureau, dans votre voiture peut-être, mais je pense que vous serez d'accord avec moi si je vous dis que je rêve d'une grande étendue d'herbe fraîche. Ben, ça tombe bien parce qu'on va partir à Guyancourt sur le parcours du golf national. C'est l'Open de France et trois invités sont avec nous. Le golfeur Grégory Bourdi, l'escrimeuse Laura Flessel et l'athlète Christine Aron. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on va expliquer pourquoi vous êtes ensemble. C'est l'Open de France de golf. Le CNOSF organise aujourd'hui une journée bleue avec des sportifs d'autres disciplines. Tout ça aussi parce que le golf sera au jeu de Rio. Grégory Bourdi, la première journée s'est bien passée pour vous à Guyancourt. Aujourd'hui, comment ça s'est passé? Dites-nous.
Ça a été plutôt correct à nouveau aujourd'hui. J'ai eu du mal en début de partie, mais j'ai bien terminé. Donc je me positionne. J'étais actuellement environ 12e, donc pas très loin des leaders. Plutôt un bon début de tournoi, avant d'attaquer le week-end.
Alors je sais, je demande ça en fait à tout le monde dans tous les sports. La chaleur, c'est pénible au golf. Ça vous empêche de faire des choses?
C'est pénible, mais en tout cas, enfin moi pour ma part, je pense que l'ensemble des joueurs, on préfère quand il fait chaud comme ça que quand on joue assez régulièrement, principalement dans les îles britanniques, dans des conditions de froid, de pluie et de vent. C'est vrai que c'est pas évident. Il faut faire attention, beaucoup boire, s'alimenter. Mais après, bon, on court pas entre les coups non plus, donc ça va. C'est vrai que je pense que la chaleur est plus supportable qu'un très mauvais temps. Ouais.
Christine, Laura, vous êtes là pour une initiation, donc la chaleur, ça vous a pas gêné? Vous appréciez le golf? Vous connaissiez déjà avant ou vous y êtes mise là aujourd'hui?
Moi, c'était une initiation pour moi. Laura, plus experte. Oui, c'est Christine. Moi, c'était ma première journée. Donc, j'ai eu différents professeurs. J'ai eu l'occasion de taper des balles pendant plusieurs heures aussi.
Mais c'est ça, mais il paraît que...
Elle est accro.
Il paraît que vous avez joué pendant 3 heures. Là, il fait 40 degrés dehors. Ça va pas bien.
C'était entrecoupé parce qu'à un moment donné, on a du mal à intégrer en fait les conseils techniques. Donc, il faut s'arrêter un peu, se reposer. Et puis, je me suis un peu baladée aussi pour voir quelques joueurs. Et puis, je suis revenue. J'ai un autre prof avec d'autres conseils. Donc, c'était vraiment sympa. Mais Laura, c'est une habituelle.
Non, moi, j'aime beaucoup. Je suis réellement depuis un peu plus de 2 ans. Et effectivement, je suis un petit peu accro. C'est vrai qu'on est, à l'extérieur, donc aujourd'hui il fait chaud, mais on est vraiment tous contents d'être dehors. Et c'est vrai que nous sommes là à encourager tout le monde, les Français, les étrangers, parce qu'on aime le beau jeu. Et on a vraiment tapé la balle depuis plus de 3 heures.
Alors, j'ai cru entendre que Christine Aron balançait des missiles sur le parcours de golf. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je me trompe? Dites-moi.
Il y en a eu quelques-uns, c'est vrai, mais il faut en fait bien intégrer la technique. Le plus dur, c'est la technique, et c'est vrai que moi, ça m'intéresse. Ce côté-là m'intéresse, comme en athlétisme, comme en karaté, sport que j'ai pratiqué aussi à mes débuts. Donc, quand on arrive à bien gérer le mouvement, c'est vrai que c'est efficace, ça va loin, mais il faut d'abord se concentrer sur la position, et ça, c'est vrai que c'est difficile.
Le golf sera au JO de Rio. Grégory Bourdi, ça fait partie des objectifs pour vous?
Oui, c'est évident. C'est vraiment un de mes gros objectifs de ces prochaines années. Pour moi, les Jeux Olympiques, c'est un rêve. Je regarde ça depuis que je suis tout petit, toutes les disciplines. Donc, pouvoir y participer dans ma discipline, ce serait vraiment génial. Donc, je vais tout faire pour faire partie de ces deux joueurs français. Voilà,
oui, c'est ça. C'est les deux meilleurs Français qui iront donc aux Jeux de Rio.
Exactement.
Et puis, il y a quand même aussi cette perspective de jouer ces Jeux Olympiques en golf, pourquoi pas sur ce même parcours dans 9 ans par exemple, si Paris avait les Jeux de 2024.
On va bien travailler pour ça. Ce serait génial parce que franchement c'est un très beau site, hein. Ça il faut le dire. Non, moi j'ai été tout de suite bluffée quand je suis arrivée. C'est agréable, c'est bien organisé, c'est vraiment bien.
Et puis mardi, en fait, j'ai eu la chance de jouer avec Warren, l'Écossais, et il était déjà aussi très très agréé à notre cause en disant pourquoi pas Paris 2024. Donc voilà, on a des atouts et on va travailler, je dirais, de manière assidue et en collectif pour avoir cette candidature.
Alors, on reconnaît bien les ambassadrices là, hein, parce que j'ai à peine dit 2024 que ça y est, on a des atouts, on est là.
Il faut le dire, on a des atouts, c'est vrai qu'il faut les mettre en avant et puis en parler parce qu'on a vraiment envie d'être présent en 2024.
Et j'ai l'impression, malheureusement Paris a connu quelques échecs dans le passé, mais j'ai l'impression qu'avec cette candidature, on l'a dit, d'abord les sportifs sont beaucoup plus investis et ça peut quand même changer les choses parce qu'après tout c'est quand même du sport et c'est quand même plus aux sportifs d'en parler qu'aux politiques a priori.
C'est vrai que c'est un événement sportif, mais je vous dirais que les retombées ne n'iront pas que pour le sport. Il y aura le tourisme, il y aura une économie, j'irais dire, qui va s'en ressentir. On a besoin aujourd'hui d'un événement aussi national. On a besoin de se rattacher à un événement positif et on connaît les valeurs du sport. Et lorsqu'on voit les retombées les retombées économiques de Londres, bon, on a envie d'avoir aussi des jeux comme ça et d'avoir aussi l'implication. On a travaillé dur. Effectivement, il y a eu l'implication des sportifs. Maintenant, il faut aussi qu'on continue à travailler avec les sportifs et effectivement, on est sur la bonne voie.
Grégory Bourdet, vous vous imaginez là sur ce parcours dans 9 ans exactement ?
Ah bah oui, ce serait génial. J'ai la chance de pouvoir faire un sport où on peut continuer au plus haut niveau encore à la quarantaine.
Donc là, vous avez 33 ans hein, pour l'instant, voilà. Donc 42 ans, c'est parfait.
Voilà, c'est parfait. Et puis d'ici là, on a la Ryder Cup en 2018 qui sera sur ce parcours. Donc ça peut être un élan supplémentaire parce que je pense que c'est une discipline vraiment incroyable, cette Ryder Cup, qui va attirer beaucoup de monde. Et donc si c'est une grande réussite, ça prouvera encore qu'on peut avoir ces Jeux Olympiques sur ce parcours en 2024 si Paris est choisi.
Et puis Laura et moi, on va peut-être accompagner nos enfants ou les supporter.
C'est vrai. Il y a 15 jours, avec l'annonce, ma fille m'a dit « Maman, j'aurai 23 ans en 2024. » Donc voilà.
Mon fils 22, donc pourquoi pas, on peut rêver.
On a travaillé la nouvelle génération.
Hein. Exactement. C'est ce que j'ai dit à mon fils. Faut s'y mettre maintenant.
Faut s'y mettre maintenant. Et puis en plus, à l'escrime, notamment, Laura, vous avez participé à des championnats du monde au Grand Palais. Je crois que c'était assez extraordinaire. Et ça, tous les observateurs étaient là pour dire bon bah ce site là c'est magnifique et ce serait la même chose, ce serait aussi au Grand Palais.
Ce serait au Grand Palais, le site s'y prête vraiment très bien et c'est vrai qu'il y a de la place. Et lorsqu'on avait fait les championnats du monde, on avait aussi mis en avant le sport handi, donc ça s'y prête très bien et les gens avaient suivi. Donc voilà, c'est pour ça que je disais on a des atouts, il faut continuer à travailler sur le fond, sur le projet pour que notre projet soit attrayant et crédible. Et il faut aussi que ce soit une implication de toute la population française.
Christine, demain il y a le meeting à Réval, le meeting d'athlétisme au Stade de France, là encore un lieu qui pourrait accueillir les JO de 2024. Est-ce que vous y serez ?
Oui, bien sûr.
Est-ce que Renaud Lavillenie peut battre son record du monde ? Parce que là, en fait, on se dit que tout est réuni. Il n'y a pas de vent, il fait chaud, mais ce sera en soirée, il est devant son public. Pourquoi pas ?
De toute façon, oui, pourquoi pas avec Renault, on va dire qu'avec Renault, tout est permis. En plus, le Stade de France, devant son public, il y aura certainement de bonnes conditions. Enfin, j'espère, tout dépendra aussi du vent, mais je pense que c'est possible, bien sûr. Tout dépend de la façon dont il a géré ses dernières compétitions, ses entraînements, mais je crois qu'il se prépare toujours spécialement pour ce meeting.
Grégory, une dernière question pas sur les jeux, mais sur le tournoi là du week-end. Donc là, reste maintenant 2 jours. Vendredi soir, vous avez donc passé le cut. Comment on se prépare là pour la deuxième partie ?
Tout de suite après ma partie, ce que j'ai terminé ce midi, j'ai fait un petit entraînement peaufiner en tout cas une partie de mon secteur du jeu qui était putting pour le week-end, et après récup ce soir et demain je devrais jouer en milieu de journée pareil, dans des conditions j'imagine assez chaudes, mais je me sens bien, j'adore ce parcours, l'ambiance est vraiment incroyable, c'est la fois de l'année qu'on joue devant notre public français, et dès qu'on est bien il est vraiment derrière nous et on sent vraiment ce support, et c'est vraiment génial. Et puis en plus, voilà, le parcours est vraiment très très challenge, très dur, donc ça rend l'exploit encore plus sympa, donc je vais essayer vraiment de donner le maximum pour briller ce week-end.
Merci beaucoup à tous les trois. En plus, vous avez des supportrices.
Oui,
on est à fond, on est à fond. D'autant qu'on a vu ta sœur tout à l'heure, donc voilà, on ne la lâche pas.
En tout cas, d'accord. Bon courage.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été sur RMC quelques minutes avec nous. On rappelle que les Jeux de Rio, c'est dans un an et que ce sera tout l'été sur RMC. Alors Rio, oui, c'est autre chose qu'Utrecht, c'est vrai que c'est pas exactement la même chose, mais bon, on a notre carioca à nous, il est là, Christophe Cessieux.
Oui, il n'est pas encore carioca pour l'instant, il est plutôt déguisé en hollandais,
oui,
tout
bah,
en orange.
Un maillot jaune, c'est... un maillot vert, et puis c'est fait, hein, ça fait un maillot brésilien, non?
Exactement, bah, voilà. Virginie. Et on sait que tu adores ce genre de couleur, donc ça va être magnifique pour ce Tour de France. Nous allons évidemment, dans quelques instants, retrouver toute la Dream Team pour évoquer ce Tour de France qui débutera donc demain d'Utrecht aux Pays-Bas, avec des débats, en veux-tu, en voilà. Est-ce le Tour le plus excitant de ces 20 dernières années? Faudra-t-il une hécatombe pour voir un Français sur le podium cette année? On vous attend sur le hashtag RMC Live et également au 32-16. Ce sera juste après les infos des 19h. À tout à l'heure.
RMC Intégral Tour.